Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is Watchman Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Many
can
are
you hear me?
Hello, my friend. This
okay,
is
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? Can you hear
me? Give
me
your GPS position.
Okay, I call you back.
What kind of boat
what
are you on?
Do you see around you?
Can you give me your GPS position?
You on
the boat? I hear you.
Can you hear me?
Okay, I call you back.
I will call you back.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique amère, où on parle des politiques des frontières maritimes de l'Europe, et toujours depuis Alarm Phone. Alarm Phone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation avec celles et ceux qui se déplacent et contre les systèmes de frontières qui criminalisent et tuent celles et ceux qui se déplacent. Alarm Phone, c'est aussi un numéro de téléphone pour les personnes en détresse aux frontières de l'Europe. Et pour que la ligne téléphonique d'Alarm Phone soit joignable 24 heures sur 24, certaines d'entre nous s'inscrivent sur un calendrier pour prendre des permanences. Des créneaux de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures, selon les disponibilités et les capacités de chacune, selon les trous du calendrier. Pour être sûr que tous les créneaux sont couverts, chaque semaine, une équipe est responsable de la coordination du calendrier. On l'appelle la Shift Coordination Team, Shift Co pour les intimes. Cette équipe fait un point régulier sur les permanences disponibles, envoie des messages et des mails au réseau quand il reste des créneaux vides, assure finalement les permanences sur lesquelles personne ne peut s'inscrire.
Bien sûr, il y a plein de manières différentes de faire des Shift Co. Parfois, on le fait avec enthousiasme et énergie. Parfois, on le fait par devoir de remplir le calendrier et de maintenir la ligne. Parfois, on le fait avec un peu d'agacement, parce que ce sont souvent les mêmes qui assurent ce rôle. Alors on discute, on échange, on essaie de partager au mieux ce stress du calendrier, d'inventer des nouvelles manières de faire. Parfois, ce sont des personnes d'une même équipe qui assurent la semaine de Shift Co. D'autres fois, ce sont des membres de différentes villes qui se coordonnent ensemble. Et puis, il y a des Shift Co où on se retrouve dans un même endroit pendant une semaine. On s'invite de ville à ville, on vient d'équipes différentes. On en profite pour faire des permanences avec des personnes qu'on voit très rarement parce qu'on habite loin les unes des autres. On a plein de discussions, on joue, on rit, on échange des trucs et astuces sur les outils qu'on utilise.
C'est pendant une de ces semaines de Shift Co qu'est né le projet Chronique amère, il y a tout juste un an. Une maison dans la campagne autour de Toulouse. Une idée qu'on partage. Et si on faisait de la radio pour raconter un petit bout de ce qui se passe aux frontières de l'Europe, avec nos mots, nos expériences, nos angles morts, nos doutes et nos convictions. Un an plus tard, on est encore là. On est plus, on est un peu plus grande. On habite plus près ou plus loin. On aime encore beaucoup ce projet radio et on a envie de continuer à le faire grandir et évoluer. On a envie de continuer à se raconter des histoires, des qui nous mettent en rage, des qui nous donnent de la force, des qui nous rappellent pourquoi on lutte et pourquoi on fait partie d'Alarm Phone. Et ça tombe bien. Parce qu'on a des camarades merveilleuses qui ont accepté de partager encore une fois leurs récits. Des histoires de permanence et de résistance qui leur donnent la force et l'envie de continuer.
I want to tell a happy story, or at least a successful story.
J'ai envie de raconter une histoire heureuse, ou du moins une histoire qui finit bien.
Ça se passe pendant une night shift, au début de l'année 2021, je crois. Les personnes sont parties de Libye en direction de l'Europe. Et il y a des personnes libyennes sur ce bateau, ce qui arrive rarement. Elles tentent de rejoindre l'Europe parce que leurs enfants sont traumatisés et brutalisés par la guerre. Et ils ont besoin de soins. J'apprends ça parce que je suis aussi en contact avec la sœur d'une des personnes à bord du bateau, qui est docteur en Autriche. La communication est très facile. Les personnes parlent très bien l'anglais et elles nous font rapidement confiance. La sœur nous fait confiance aussi. Ils ne perdent jamais leur réseau satellite. Ils nous appellent toutes les 30 minutes avec une nouvelle position. Ils comprennent ce dont on a besoin et pourquoi on en a besoin. Et cette nuit-là, il y a des bateaux d'ONG en opération, plus précisément le Alan Kurdi. On arrive à alerter les gardes-côtes et les gardes-côtes informent le Alan Kurdi. Et nous, pendant ce temps, sur le site de Vessel Finder, on observe le Alan Kurdi qui s'approche du bateau. On garde un contact régulier avec les personnes à bord. Et puis, il y a ce moment très stressant où les personnes ne répondent plus. J'appelle et elles ne répondent pas. Alors j'appelle la sœur, on est devenus amis, elle et moi, au moins pour ce petit moment. Elle me dit qu'elle vient de parler au téléphone avec son frère, et que si les gens ne répondaient pas au téléphone, c'est parce qu'ils étaient en train d'être secourus. Pour moi, tout ça n'a duré que quelques heures, et pour eux, beaucoup plus, bien sûr. Mais c'était juste parfait. Après, ils ont pu, bien sûr, être débarqués dans un port sûr. Notre action a pu faire la différence. Nous avons été plus qu'un simple témoin de l'horreur, du cimetière qu'est la mer. Cette fois, nous avons pu être un soutien pour ces personnes, pour qu'elles trouvent la sécurité, pour qu'elles puissent trouver une nouvelle vie ici en Europe, comme c'est le droit de tous et toutes. Alors, j'aime bien m'accrocher à ça, à ces moments de gloire, à ces moments de victoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est pendant un shift, on avait plusieurs situations en mer Égée et c'est une touriste qui appelle à l'Armphone et qui dit qu'elle est témoin actuellement, en ce moment même, d'une arrivée d'un bateau sur une plage, sur une île grecque. Elle m'envoie une photo, donc il y a un bateau qui arrive sur une plage, mais c'est une plage très touristique, avec un bar, avec un peu improbable quoi. Et là, il y a ce bateau qui arrive et il y a environ une centaine de personnes à bord. La moitié saute du bateau, vient sur la plage. Les flics sont prévenus et arrivent très rapidement. Et elle m'explique qu'on l'empêche de voir les personnes à bord, qu'on l'empêche d'approcher et qu'on demande à toute la plage de partir. Et elle a regardé sur Internet et elle a trouvé notre numéro et elle nous appelle pour nous dire qu'est-ce que je peux faire. Et c'était complètement incroyable parce que elle nous envoyait des photos, on voyait le bateau, on voyait les flics, on voyait et elle qui était là à me dire moi je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas aidé ces personnes. Elle était avec son compagnon qui lui a réussi par un endroit de récupérer le numéro d'une des personnes qui était sur le bateau et il a eu quelques échanges avec lui.
We had to people in solidarity with people on the move that happened to be on the island of Milos.
Nous sommes donc en contact avec deux personnes solidaires, des personnes exilées, qui se trouvent sur l'île de Milos en vacances et qui ont été témoins de l'arrivée d'un bateau sur la plage. Elles ont pris des photos, ont parlé avec les gens. Ce sont elles aussi qui nous ont mis au courant de l'arrivée du bateau. Et dans le même temps, elles ont appelé le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais n'ont pas réussi à les joindre parce que personne ne répondait au téléphone dans leur bureau à Athènes.
Elle m'expliquait aussi qu'il y avait quand même un pêcheur, enfin un mec en bateau qui était pas loin, une personne grecque, qui a décidé de venir et qui a fait pression sur les autorités. Genre, il s'est posé à côté de l'eau du bateau, qui était vraiment au bord de la plage, hein, et a dit « Moi, en fait, je vais organiser des opérations de secours, je suis obligée par la loi de le faire, donc je vais le faire, et vous allez me laisser faire. » Parce qu'ils empêchaient les 50 personnes restantes sur le bateau d'accoster. Et donc, après une heure, un peu plus d'une heure, les flics ont renoncé et ont accepté que cette personne s'occupe d'aider les gens à sortir du bateau et à revenir sur la côte. Et elles m'ont raconté ça, je me dis, mais c'est lunaire, quoi. Enfin, t'as tout le monde qui s'organise, qui s'auto-organise pour aider des personnes à accoster et à arriver sur le territoire grec.
Later on, with their help, we made the arrival.
Plus tard, avec l'aide de ces deux personnes, nous avons médiatisé l'arrivée du bateau en publiant un tweet. Et je crois que cela a permis d'éviter un pushback, refoulement, comme cela s'était déjà produit sur l'île de Milos. Même si ça aurait été un pushback à très grande distance, on sait que les Grecs l'ont déjà fait par le passé. Dans cette situation, les gens sont restés sur l'île, il y avait des images, il y avait des preuves qu'ils étaient là, et ça aurait été très difficile pour les autorités grecques de les renvoyer en Turquie. Donc c'était très bien, c'était incroyable.
Les flics étaient vraiment très vindicatifs, ils lui ont pris son portable, ils lui ont demandé d'effacer toutes les photos, et ils voulaient bloquer la route. Bon, leur idée c'était vraiment de faire un pushback, et en fait, elle a décidé de faire du bruit, de contacter plein de gens, de contacter des potes à elle qui étaient journalistes. Elle avait conscience des risques, mais elle a décidé de continuer. Et elle est restée sur place au moins 2 jours.
And not just that, after, you know, the pushback was prevented.
Mais ce n'est pas tout. Après que le pushback a été empêché, les deux personnes ont continué à nous appeler en disant « Eh, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens sont laissés là, dehors. » On leur a expliqué que c'était parce qu'il n'y avait pas de camp ou d'infrastructure officielle qui pouvait accueillir les exilés sur cette île, parce qu'elle n'est pas dans la zone frontalière. Milos est dans les îles Cyclades et il y a peu d'arrivées là-bas.
Et elle a repris également des photos des personnes qui étaient du coup gardées dans un endroit sur un parking, sous une tente. Et elle a veillé vraiment à ce que ils soient pris en charge, qu'il y ait des tests Covid de fait, qu'il y ait vraiment un protocole qui a commencé pour une potentielle prise en charge d'arriver sur le territoire, quoi, et ainsi éviter le pushback.
So that felt very good.
Donc ça m'a fait du bien. Personnellement, j'étais super heureuse ce jour-là parce que ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire qu'il n'y a pas que des touristes riches qui arrivent dans les îles grecques, qui ignorent complètement ce qui s'y passe, qui prennent juste des photos et déshumanisent ou sensationnalisent ce qui s'y passe. Il y a aussi des gens qui sont solidaires des personnes exilées et qui agissent. Ils ont fait un choix politique, celui d'être solidaire avec ces gens. Ils ont essayé de les aider autant que possible. Donc j'ai pu retrouver la foi en l'humanité, c'était trop bien. J'étais super heureuse. C'est un des meilleurs moments que j'ai eu ces derniers temps avec Alarm Phone.
Je voudrais vous raconter l'histoire d'une permanence téléphonique qu'on a fait le 12 octobre 2021.
On commence, on n'a pas beaucoup de cas en cours pendant cette permanence et quasiment dès le début de cette permanence téléphonique, il y a des personnes sur un bateau qui essayent de nous contacter. La communication est très mauvaise, on s'y reprend à plusieurs fois, ça dure un petit moment et on a le premier contact 20 minutes plus tard. On arrive à téléphoner aux gens qui sont sur les bateaux. Et ils sont très stressés. On sent que les personnes sont inquiets, ils crient beaucoup. Et c'est le moment où, en fait, on se regarde, c'est très, très stressant. On est loin, on est au bout du téléphone et on arrive quand même à faire en sorte à la fois soit de rester calme, de se regarder, de soutenir et aussi de parler et finalement pouvoir parler un peu plus sereinement. Tout le monde a l'air de se calmer sur le bateau. Et on peut commencer à discuter. On apprend qu'ils sont partis la veille de El Ayoun, dans le Sahara occidental, et sont en route vers les Canaries. Et on sait que cette route, elle peut prendre jusqu'à 3 jours pour la traverser. Et ce jour-là, les conditions météorologiques sont plutôt bonnes. On apprend que le bateau est en plastique, c'est un bateau en plastique blanc, qui a un moteur, qui fonctionne, et qui a 56 personnes sur le bateau, dont 12 femmes et 2 enfants. Et notre surprise, c'est que cette équipe a un téléphone satellite, avec lequel, du coup, ils nous appellent. Et normalement, dans ces situations, dans cette zone, dans ces traversées, c'est très rare d'avoir un téléphone satellite. Et on sent que cette équipe est très bien préparée, et rapidement, on arrive à très bien communiquer. Ce qui nous permet à ce moment-là, alors qu'on avait eu un grand moment de stress au départ quand on les a eus, de se rassurer, de se dire « Ah, ça y est, c'est assez fluide ». Et ils nous demandent d'appeler les secours espagnols. Et pour faire ce travail-là, il nous faut une position GPS. Donc, on leur demande, mais la personne qui est au bout du fil ne sait pas la trouver. Donc là, pareil, on a un gros moment un peu de panique où on galère, on cherche le tuto pour pouvoir trouver cette position. On finit par le trouver. On essaye de dérouler tout le procédé avec cette personne. On y arrive. Là, on sent qu'on se rassure et ça marche pas. Donc, on s'inquiète. On leur dit, on leur laisse le temps de réessayer. On les rappelle plus tard pour qu'ils gardent un peu leur batterie. Et quand on les rappelle, ils ont cette position. Et au même moment, ils viennent de voir un avion espagnol les survoler. Ça, c'est un élément qui, dans cette zone, nous rassure beaucoup. C'est plutôt une bonne nouvelle. On convient de se rappeler plus tard, on appelle les sauveteurs, et ils nous disent effectivement qu'ils ont vu ce bateau et qu'ils vont partir à la recherche. Donc, on rappelle les gens, et on leur annonce et que les sauveteurs sont en route. Et là, il y a une grande, grande joie sur le bateau. Et on entend tout le monde rire de soulagement. Et nous-mêmes, alors qu'on a eu des petits, à la fois des grands ascenseurs émotionnels et même des petits, surtout les petits couacs, on est très, très émus, très, très heureux. Et on raccroche, on pleure. Et on apprendra avant la fin de la permanence téléphonique que les gens ont été sauvés.
Donc, on avait envie de raconter cette histoire qui est, somme toute, assez banale à l'arme faune de gens qui traversent et puis qui parfois arrivent à arriver de l'autre côté. Mais là, cette fois-ci, c'est particulier pour nous parce que c'est nous qui avons les premiers contacts avec ces personnes en mouvement et qui allons aussi apprendre qu'ils sont récupérés par les sauveteurs espagnols. Donc voilà, on va aller du début à la fin de cette histoire avec ces gens. Et voilà. Et on avait aussi envie de raconter que pendant toute cette shift, on a appris le décès d'un camarade d'alarme faune de longue date, Wally, qui était partie prenante d'une équipe en Allemagne. Voilà. Et on voulait aussi que cette histoire puisse être l'occasion d'une pensée pour lui.
C'est une histoire qui se passe il y a plusieurs années, quelques mois après mon entrée dans le réseau Alarmphone. On est deux en shift avec une camarade de l'équipe pendant une nuit d'hiver et le téléphone sonne. Pour moi, c'est la première fois que je me retrouve au téléphone avec des personnes sur un bateau. C'est un petit bateau, gonflable, avec à bord une dizaine de personnes qui sont parties du Maroc à destination de l'Espagne. Et elles appellent parce qu'elles n'arrivent plus à avancer. Il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de mer. Le bateau dérive et elles sont très fatiguées. Pendant tous nos échanges, j'aurai le même monsieur au téléphone. Et la communication avec lui, avec les personnes à bord, est vraiment facile. Il y a du réseau, on arrive à s'entendre malgré le vent, et ils me donnent très régulièrement leur position GPS. Comme leur position montre qu'ils sont dans les eaux espagnoles, on prévient Salvamento Marítimo, l'organisme de secours espagnol, qui envoie tout de suite un bateau à leur recherche. Et là, ben, ça prend du temps. Déjà, il faut le temps que le bateau de Salvamento arrive dans la zone. Et puis, il faut se représenter ce que c'est de chercher en pleine nuit, en mer, un petit bateau gonflable à ras de l'eau avec 10 personnes dessus. Alors que ce bateau, en plus, dérive constamment. Alors, avec les personnes à bord, on s'appelle très régulièrement pour savoir comment ils vont, pour qu'il me donne une nouvelle position et qu'on la transmette à Salvamento, avec qui la communication est aussi très facile. Ça prend du temps, et on commence à avoir peur que ça en prenne trop.
Parce que, poussé par le vent, le bateau dérive vers les eaux marocaines et on ne sait pas ce qui se passera s'ils franchissent la ligne. On ne sait pas si les Espagnols continueront à les chercher. Et puis finalement, à un moment, les personnes au téléphone, ces personnes qui ont tenu bon jusque-là, sans jamais se décourager, sur leur petit bateau au milieu de la mer pendant de longues heures, ces personnes me disent qu'elles voient de la lumière et un bateau venir vers elles. Et c'est le bateau des secours. Et là, je les entends en direct exploser de joie, de soulagement au téléphone. Je les entends se mettre à rire, à crier Bosa, à chanter. Et moi, à l'autre bout du fil, ben tout le monde m'a oublié. J'essaie malgré tout de leur dire de rester calme pour pas faire chavirer le bateau, mais en fait, je bredouille avec un grand sourire. Au bout d'un moment, le monsieur prend la parole et on se remercie mutuellement. Et voilà, ils ont réussi. Ils sont arrivés en Europe sains et saufs. Des années après, je suis toujours dans l'Alarmphone. J'ai fait beaucoup d'autres shifts. J'ai connu d'autres beaux moments, mais aussi des moments très durs, notamment des naufrages. Mais quand ça devient trop dur, quand parfois je doute de notre action, j'arrive encore à entendre ces personnes, à entendre leur joie. Et je les remercie pour la confiance qu'elles ont pu m'accorder.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On était contents d'entendre ces récits, parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus. Parce que les États continuent de militariser les frontières pour tenter d'empêcher certains déplacements. Parce que des tas de gens continuent quand même à se déplacer dans tout ce merdier. Parce que quand nos vies sont traversées par des moments douloureux, eh ben c'est pas toujours facile de continuer à s'inscrire sur un calendrier. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon. Parce que prendre le temps de se raconter des belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. On voulait terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour toutes celles et ceux qui luttent contre le silence organisé par les États. Des pensées pour toutes celles et ceux qui s'organisent contre la mort et pour faire vivre le souvenir de celles qui traversent. Des pensées pour toutes celles et ceux qui continuent de chercher, de documenter, de rassembler. Des pensées pour toutes celles et ceux qui ont participé aux actions de commémoration du 6 février, à Douala, à Dakar, à Nouakchott, à Agadez, à Bamako, à Tunis, à Casablanca, à Oujda, à Madrid, à Milan, à Porto Recanati, à Valette, à Izmir, à Athènes, à Thessalonique, à Ioannina, en Crète, à Chios, à Calais, à Lyon-sur-Mer, à Strasbourg, à Berlin, à Hambourg, à Francfort, à Göttingen et dans bien d'autres endroits. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent le faire. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. D'ici là, main sur le cœur et point levé. Spect.